أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers sœurs, chers frères, chers amis, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre exemple. Vous savez également que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il soit, comme dernier des envoyés et comme tous les envoyés avant lui, un homme, un être humain. Et il est dit effectivement le terme dans le Coran, Basharu mithlukum, un être humain comme vous. Et cet exemple pour les mondes, Khatim al-Anbiya, le dernier des prophètes, alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le dernier des messagers soit bien entendu un être humain comme tous ceux qui l'ont précédé, et que cet exemple également ait quelques caractéristiques sur lesquelles il faut que nous nous arrêtions. J'ai plusieurs fois eu l'occasion de rappeler à mes frères et mes sœurs en islam que nous sommes un peu négligents avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous en connaissons quelques dates, nous en connaissons quelques faits, mais nous n'en connaissons pas les détails et nous ne méditons pas sur le sens des détails. Et ça, c'est peut-être une négligence grave quand nous entendons du haut de ces cieux, et vous connaissez le verset coranique, « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » Il y a certes dans l'exemple, dans l'envoyé de Dieu, le meilleur des modèles. Et quand il nous est dit que c'est le meilleur des modèles, cela veut dire effectivement que nous avons à méditer cet exemple. À méditer l'exemple, c'est-à-dire sa vie. Et une vie, c'est fait de détails, c'est fait de dimensions très précises, de sens, de petites nuances. Puis il y a une première nuance sur laquelle nous nous attardons peu. À votre avis, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait que notre exemple pour tous les temps, celui dont tout notre cœur doit porter l'envie de lui ressembler, comment se fait-il? Pourquoi est-ce qu'il y a un sens au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait voulu orphelin, l'ait fait manquer de ses parents immédiats? Alam yajidka yatim fa'awa wa wajadaka dalan fa'ada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, il t'a donné refuge, ne t'a-t-il pas trouvé égaré, il t'a orienté, ne t'a-t-il pas trouvé démuni et il t'a enrichi. Allah subhanahu wa ta'ala, le dernier des envoyés modèles de tous les hommes, il le met dans une situation très particulière, n'est-ce pas? Une situation à qui il manque des parents immédiats. Et à côté de ceci, très étonnamment, la deuxième chose qu'un être humain sur la terre doit comprendre après la ilaha illallah, c'est la relation parent. Il nous envoie un envoyé tiré des hommes avec des parents absents et il dit à tous les hommes, après moi vos parents. Étonnant. Sinon on y réfléchit. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas vouloir les choses par hasard. Il dit qu'il lui a enlevé ses parents. Et il nous dit, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et والدين, c'est le duel. les deux. Dieu a commandé que vous n'adoriez que lui et la bienfaisance envers vos parents, vos deux parents. Quand on se met à méditer sur ceci, on se dit, mais quel est l'enseignement? Il y a bien un enseignement. Si cet être, sallallahu alayhi wa sallam, est mon modèle, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu quelque chose quand il lui a enlevé ses parents. Et il veut me dire quelque chose quand il me dit, et toi qui dois le suivre lui, à lui je lui ai enlevé les parents, mais toi tu dois ne jamais oublier les tiens. Première dimension, et c'est une dimension fondamentale que l'on doit comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pris ses parents parce qu'il va être son éducateur. C'est la relation d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est un lien de filiation. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'éduque. Et donc nous devons bien comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala fait vivre les étapes au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre qu'est-ce qu'il nous dit sur l'éducation. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué le meilleur des hommes pour que nous devenions les meilleurs des parents. Première dimension. Et l'autre dimension qui est très importante, c'est qu'en même temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé de l'humanité des êtres normaux à l'humanité des êtres élus, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en lui quelque chose qui est véritablement une dimension que nous devons méditer, le manque. Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis le manque et a comblé ce manque. Il a mis dans le meilleur des modèles le manque. Et c'est de ce manque qu'il va l'orienter dans sa vie. Je viens de citer les trois versets et il dit, nous t'avons trouvé ce que je viens de dire. Orphelin, nous t'avons donné refuge. Égaré, perdu, nous t'avons orienté. Pauvre et démuni, nous t'avons enrichi, n'est-ce pas ? Et tout de suite après, il dit « فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ». Et ici, c'est une dimension très importante dans le Coran. Il lui dit « Tu as été orphelin, tu as été égaré, tu as été pauvre ». Et tout ceci, il dit « Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné refuge ». Le refuge, c'est qui ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. T'a donné un refuge auprès de cette révélation qui est la tienne. Tu as été égaré et nous t'avons orienté. Qui l'a orienté vers qui ? Et le Houda, la direction de Dieu. Et nous t'avons enrichi de quoi ? D'argent. Mais non, le prophète, on le sait, il était pauvre, mais il était riche de la révélation. Il lui a tout donné qui fait celui qui est de l'être normal devient l'être élu, n'est-ce pas ? Et en même temps, regardez comme il le replace dans l'humanité. Et il dit, « فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ » Et le « فَأَنَا » c'est la cause. Et ça doit être parce que tu as été pauvre et que je t'ai enrichi de la révélation, tu vas donner et tu ne vas pas haïr l'orphelin. En d'autres termes, il nous dit une chose qui est très importante. Notre exemple, le prophète Hassan a été éduqué, c'est la première des leçons de cette solitude, de cette dimension de l'orphelin. Mais en même temps, il a mis un manque et il lui dit, par ce manque devient celui qui donne. Ce que je t'ai pris, tu dois être ensuite celui qui donne. Et parce que tu sais ce que c'est qu'être orphelin parmi les hommes, ne déteste pas l'orphelin. Il l'a mis dans une situation qui, parce qu'il lui a manqué, il saura ce qu'il faut donner. Et à nous tous, pour l'humanité entière, il nous a donné à méditer sur le manque. Sur cette dimension qui lui a manqué, le lien de parenté, pour que nous y le méditions véritablement. Alors prenons des exemples de la vie du prophète, et essayons de voir effectivement ce que Allah Ta'ala nous donne comme enseignement sur la façon dont nous avons à éduquer nos propres enfants et le droit de nos enfants sur nous. La première des dimensions, Une fois que nous avons compris cet exemple, et je vais y revenir très souvent, Allah Ta'ala a mis le prophète Hassan dans une situation tout à fait particulière. La première des choses, ce sera de lui retirer une affection immédiate, celle de ses parents, et de lui offrir un autre type d'affection. Et cette affection, ce sera l'affection de qui ? De sa gouvernante, c'est certain, de son grand-père, et puis de son oncle, Abu Talib. Cette filiation, elle est importante parce que le prophète as-salam va perdre la relation immédiate avec son père et sa mère, mais entre les deux premiers mois et la sixième année de sa vie. Mais il va trouver comme première étape qui va combler ce manque une chose très importante, un espace d'affection. Allah Ta'ala lui a pris la filiation et lui a offert l'affection par deux êtres. Deux êtres qui vont avoir une façon tout à fait particulière d'accompagner le prophète as-salam pendant les premières années de sa vie. Et nous-mêmes, nous ne réfléchissons pas suffisamment à ça. Quand nous revenons au texte qui nous parle de la vie du prophète as-salam, on est très très étonné de ce lien tout à fait particulier qu'il entretenait avec son grand-père. Il lui manifestait une affection tout à fait délicate. On sait d'ailleurs que parmi tous ceux qui venaient s'asseoir à côté du prophète as-salam, à côté de ce grand-père, il avait un petit tapis. Et en général, par bienséance, par respect, il ne s'asseyait pas sur le tapis du grand-père. Et le seul à qui il donnait cette autorisation et qui le menait à côté de lui, c'était Muhammad ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam. Il lui a témoigné une confiance, et cette confiance lui a donné une sécurité. Et toute cette confiance et cette sécurité n'est d'une seule chose fondamentale. C'est la manifestation de l'affection, la manifestation de l'amour. Oserais-je rappeler une chose fondamentale que tous les enfants de la terre ont sur leurs parents? Et c'est quand on en mange que l'on sait ce que ça vaut. La première des choses qu'Allah donne au prophète quand il lui enlève ses parents, ce sont des êtres qu'il aime. Alors, chacun d'entre nous ici, chacun d'entre nous va dire, mais évidemment, cher frère Tarek, chacun de nous aime son enfant. J'aimerais vous dire quand même une chose, c'est que son grand-père, avec le prophète as-salam, faisait en sorte qu'il perçoive cette affection et lui donnait des signes. Et nous, nous avons bien à réfléchir sur cet exemple. Des exemples, des tout petits exemples, mais qui sont toute la différence. C'est que le prophète as-salam est passé d'un manque possible d'affection à des signes d'affection visibles. Et que ce que nos enfants ont comme droit sur nous, ce n'est pas que ce soit naturel de les aimer, c'est de manifester notre amour, de manifester. Et beaucoup plus encore en 1999, beaucoup plus encore dans cette société où les choses vont tellement vite, où l'attention est très superficielle. Manifester. Faut parler plus fort comme ça. Ça va être très difficile ça. Charles, on va essayer. Manifester à ses enfants des signes d'amour. Vous savez que le prophète as-salam, c'était aussi ceci qu'il fera plus tard. Mais lui, il a reçu ça. Il était orphelin Et Allah SWT lui dit, on t'a donné refuge. Tu as trouvé refuge auprès d'Allah SWT, mais il lui a donné refuge parmi les hommes aussi. Et parmi les hommes, le premier refuge, ta première protection, c'est de te sentir aimé. Est-ce que vous entendez ceci? Du long de 14 siècles et du haut de 7 cieux de révélation, Allah SWT nous enseigne par l'exemple du prophète As-Salam, nous lui avons enlevé l'amour et nous lui avons donné la protection par un autre amour. Parce que l'être le plus protégé sur la terre est l'être que l'on aime, non pas l'être que l'on compte. L'être le plus protégé n'est pas celui qui a une carapace de principe, c'est celui qui a une lumière d'amour dans son cœur. Et qui sait qu'il a à côté de lui des êtres qui l'aiment, et non pas simplement qu'il l'aime, mais qui le lui disent. Tu veux protéger ton enfant dans cette société en 1999, ce n'est pas en commençant par les interdits, c'est en commençant par la manifestation de ton amour à son égard. Et la manifestation de ton amour à son égard, ce sont des signes aussi. Ce sont des regards, ce sont des attentions. C'est ce que le prophète a trouvé comme premier refuge. Ce premier refuge qui est le refuge d'une manifestation par son grand-oncle. Il lui a fait vivre le manque et lui fait comprendre la substitution. Vous savez, je vais vous dire une chose qu'il ne faut jamais que vous oubliez. On sait aujourd'hui qu'il y a une chose dont certains êtres humains sur la Terre, regardez comme les sciences modernes nous apprennent des choses que l'islam nous apprend naturellement. Nous savons aujourd'hui, par exemple, que des enfants en bas âge, lorsqu'ils ont été abandonnés par leurs parents au point de pouvoir se trouver dans une situation d'orphelin, en tout cas potentiel si ce n'est réel, vivent pratiquement toute leur vie avec un des sentiments qu'on appelle l'abandonnisme. Se sentir abandonné. Et qu'est-ce que c'est se sentir abandonné? C'est de sentir que ceux qui nous ont aimés nous ont laissés. Alors c'est vrai physiquement, mais c'est vrai aussi verbalement, c'est vrai affectivement. On peut abandonner quelqu'un en vivant à côté de lui si on ne lui témoigne pas qu'on l'aime quand on est présent à ses côtés. Si tu ne me dis pas combien tu m'aimes et que tu es à côté de moi, tu m'abandonnes dans mon affection et c'est mon droit sur toi. Parce que si tu m'as donné la vie pour me commander, Dieu t'a permis de te donner la vie pour m'aimer. C'est ta première protection. Et c'est ce qu'Allah a donné au prophète ﷺ, et c'est ça aussi dont on doit se souvenir quand on parle du prophète ﷺ. Essayez de penser à l'éducation qu'Allah lui a donnée, à ce qu'il lui a donné, à ce qu'il lui a enlevé, et c'est ça aussi l'exemple dont nous devons nous-mêmes tirer un enseignement. Il y a une deuxième des choses, je ne peux pas rentrer dans tous les détails de la vie du prophète ﷺ, mais une autre chose qui me paraît importante. Vous savez que le prophète ﷺ a dit qu'il n'y a pas eu un envoyé qui a été envoyé parmi les hommes qui n'ait été berger. N'est-ce pas? Et les compagnons lui ont dit, et toi aussi, lui a dit, moi aussi. Et le prophète, alayhi salam, a été également berger assez jeune. Et là aussi, on doit y réfléchir. Pourquoi pensez-vous qu'Allah SWT a donné cette dimension d'être berger à tous les prophètes, alayhi salam? Alors l'idée la plus immédiate qui nous vient, qu'est-ce que c'est? Il y a un troupeau, il faut le conduire. Le prophète al-Sallam conduit, et donc il en est des bergers comme des hommes plus tard. C'est vrai, mais c'est un peu simpliste. Il y a quelque chose de plus profond que cela. Quand vous mettez un être humain, en particulier le prophète al-Sallam quand il était jeune, en situation de s'occuper des animaux de la tribu, qu'est-ce que vous lui donnez comme responsabilité? Vous lui donnez la responsabilité de la nourriture, c'est-à-dire de la survie de la tribu. Vous lui donnez une grande responsabilité. Quand un enfant de 12 ans s'occupe de berger, toute la communauté lui dit « Nous te faisons confiance ». Deuxième des qualités que nous devons offrir à nos enfants, la confiance. Et là aujourd'hui, en particulier dans les sociétés modernes, et c'est vrai également à l'île Maurice, nous avons tellement peur de la société autour de nous que nous commençons à avoir peur d'offrir notre confiance à nos enfants. Quand notre exemple a reçu à 12 ans la confiance de la survie de la communauté par la nourriture, le berger qui protège la vie par la nourriture, nous devrions nous-mêmes essayer de réfléchir. Pose-toi la question, cher frère, pose-toi la question, chère sœur, avec tes enfants, à quel moment tu peux dire véritablement que tu as offert une responsabilité à ton fils ou à ta fille et qu'elle a senti ou qu'il a senti que tu lui faisais confiance. Parce que faire confiance, c'est manifester de l'amour aussi. Je vais vous dire une chose que je répète toujours parce que ça m'habite. J'espère un jour que mes enfants pourront dire un petit détail comme celui-là qu'il leur reste de la mémoire de leur père et de leur mère, Inch'Allah. S'il y a une chose qui m'a marqué ma vie durant et qui a fait que j'ai reçu, celui qui vous parle a reçu une éducation très libérale mais en même temps appuyée sur la confiance. Et je me souviens toujours parce que ça me reste ancré. Vous savez, quand vous avez aimé, comme chacun d'entre nous aime ses parents, son papa et sa maman, et que de ce point de vue-là, vous voyez les gens partir, reviennent à votre esprit des petits détails. Et j'ai ce souvenir-là de mon père, rahimahullah, chez qui j'étais allé lui demander une somme d'argent, 10 francs suisses, ça fait pas mal de roupies. J'étais allé lui demander ceci, et m'a regardé comme ça dans les yeux, et puis je ne savais pas exactement c'était pourquoi, mais il a eu une chose tout à fait particulière. Il m'a pas demandé... C'est pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire, où tu vas, quand tu reviens, comme nous on fait, hein, ou beaucoup d'entre nous. Il m'a dit une chose très importante, et je me souviens encore, je peux vous dire, j'ai dans ma mémoire le lieu où ça s'est passé, la qualité de la lumière dans laquelle les choses se sont passées, et son regard quand il a prononcé ces mots, jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait partie, quand je pense à lui, de mes invocations. Ce moment-là, c'est étrange, c'est un petit détail de la vie. Quelqu'un qui a fait 69 ans de travail pour l'islam, qui a donné toute sa vie, 42 ans d'exil, et tu te souviens d'un petit détail dans un couloir, une fin d'après-midi. Et quand à quel âge? 13 ans, 14 ans. Et je suis allé lui demander 10 francs, et il me regarde, il ne me pose aucune question, il prend les 10 francs, il les donne dans la main, et il me dit, tiens, mais n'en fais pas quelque chose qui déplaît à Dieu. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit l'essentiel. Il m'a dit, je te fais confiance. Et si moi je ne suis pas là, Dieu t'accompagne. Et c'est entre toi et Dieu. La confiance. Mais c'est quand quelqu'un vous dit ça, que vous avez un signe qu'il vous aime et qu'il vous comprend. Et à la limite, je me souviens plus de ce que j'en fais, je vous promets, je m'en souviens pas. Mais à la limite, je vous dirai une chose. Même si j'en avais fait quelque chose au moment là, qui n'était pas prêt. Il y a quand même une chose très importante, c'est que cette leçon, elle vaut des heures et des heures de lecture, de livres sur comment on devient bon musulman avec son papa et sa maman. La confiance. Et il fut berger très tôt, le prophète Rasulullah Salam. On lui faisait confiance, et c'est dans la confiance qu'on éduque un enfant. C'est ton deuxième devoir, c'est son premier, c'est son deuxième droit. L'autre chose qui a été une manifestation, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il avait l'amour et quand il avait la confiance, a développé ses qualités, bien entendu, ses qualités qui sont le propre du prophète, alayhi salam, et qui ont fait qu'on l'a appelé As-Sadiq, Al-Amin. Et Sadr al-Amin, c'est-à-dire l'être de vérité et l'être de confiance, celui en qui on a confiance. Voilà qui était le prophète à cela, mais pendant toute sa vie. Et de ce point de vue-là, ce qu'il nous reste, c'est qu'il a été, depuis le début, lié avec Dieu dans un rapport de cœur et lié avec les hommes dans un rapport d'affection. Ça, c'est une dimension qui va avoir et qui va rayonner dans toute sa vie. Et en plus de ceci, il a cette qualité de dire la vérité, c'est-à-dire de surveiller sa langue, et en même temps d'être fidèle, c'est-à-dire de respecter sa parole. Es-Sadiq qui dit la vérité, et l'Amin qui, quand il a dit quelque chose, s'y tient. Et ça, c'est une chose que l'on doit aussi comprendre. En même temps que l'on fait confiance, en même temps que l'on aime, l'un des principaux témoignages de notre vigilance dans l'éducation, ce n'est pas uniquement le comportement, c'est le verbe, c'est le langage.
Ça résonne vraiment très fort. Je vais essayer de parler plus fort. Comme ça, ça va ?
Ça va, je crois.
Ciao. Le verbe, le langage. Et là aussi, ton fils, ta fille, elle a un droit sur ton attention. Pas seulement sur le comportement, mais sur la parole. Sur la parole. Et là aussi, il faut développer, comme on sait que le prophète était justement As-Sadiq al-Amin, et qu'il recevait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il allait recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala la révélation, il était entouré, il avait développé quelque chose sur laquelle nous devons insister. Si, au moment de la révélation, il a été écouté par certains, c'est qu'avant la révélation, il avait une parole, une façon de s'exprimer. Et la chose que l'on sait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une façon de s'exprimer qui est une façon qui est fondée sur l'élégance, la politesse et le respect. Et nous, très très rapidement, on fait attention aux actes, mais pas suffisamment au langage. Et on voit des parents, on les voit à la maison comme on voit à l'extérieur, qui démissionnent au niveau de la langue, qui démissionnent, et même devant leurs enfants, ils parlent mal, ils disent des mots qui ne doivent pas se dire. Moi, j'ai même des enfants, walhamdoulillah, quand il m'arrive, parce que ça arrive parfois dans un état, quand on est excédé comme n'importe quel humain, qu'un mot nous sorte, il leur marque tout de suite. T'as dit ça? Moi, j'ai dit ça? Oui, t'as dit ça. Parce qu'ils sentent que ça ne doit pas être la norme. Le mot qui n'est pas tout à fait poli, qui n'est pas tout à fait respectueux, vous êtes une communauté qui a reçu la parole. Et qui a reçu la parole doit purifier sa bouche. Et la principale des purifications, c'est le wudu que vous faites, le wudu pour nettoyer toutes les impuretés que l'on peut dire, mais surtout pour être conscient qu'il faut cesser d'en dire. Il faut cesser de parler mal dans cette communauté. Et il y en a certains d'entre nous, ils aimeraient éduquer leurs enfants au bon comportement, ils parlent mal devant leurs enfants. J'ai un droit sur toi si je suis ton fils. Sois poli. N'utilise que des termes qui soient nobles, parce que nous sommes une communauté qui a reçu le Coran, le Coran et le Kalim, et on n'utilise pas n'importe quel mot. Nous avons dans notre communauté trop de vulgarité. Autant devant nos enfants il faut faire attention, autant il faut leur dire de faire attention. Il faut leur dire de faire attention. Ce n'est pas seulement à l'école que les choses se passent, parce que chez vous, c'est une école. Parce que chez vous, c'est l'espace de la principale éducation. Votre enfant doit aller à l'école sans effort, parce que l'effort se fait à partir de la maison, par le bien. Fais attention au mot que tu emploies. En même temps, ceci c'est effectivement As-Sadiq al-Amin, celui qui est aussi fidèle à sa parole. Là aussi, nous devons donner des exemples de fidélité à notre parole pour éduquer nos enfants. Dire quelque chose et le suivre, c'est aussi une des dimensions qui doit être un des signes de l'éducation, tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait avec le prophète. C'est pas un hasard si les premières qualités qui sont ressorties de l'éducation qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne au prophète, c'est la langue, c'est la façon dont il parle. Sadiq, toi tu ne mens pas. Amin, quand tu dis quelque chose, tu la respectes. Et nous, qu'est-ce qu'on va regarder chez l'enfant? Tous ses comportements, mais pas son vocabulaire. Et ce qu'on va lui montrer, c'est l'apparence de comportement, mais on parle très mal. On se trompe. Finalement, la réalité, c'est que tu finis toujours par agir de la façon dont tu parles. Et si tu parles mal, tu finiras par pas bien agir du tout. C'est vrai. Je suis persuadé que si... Alors voilà, je lance ça comme ça, mais je pense qu'il doit y avoir du vrai. il doit y avoir une relation très précise, très intime entre la façon dont quelqu'un parle et la façon dont quelqu'un agit. Et je peux mal imaginer, franchement, réfléchissez bien, chers frères et chères sœurs, je vois mal quelqu'un qui soit vulgaire dans son comportement, être vulgaire dans son vocabulaire, être noble dans son comportement. Je ne crois pas que ça puisse se voir. Quelqu'un qui parle mal avec des mots vulgaires et qui a un comportement exemplaire. Je pense que l'un est le miroir de l'autre. Et que de ce point de vue-là, nous avons aussi à beaucoup travailler, les uns et les autres. L'amour, la confiance, et avec la confiance, le vocabulaire. Quatrième chose, qui est une des qualités que le prophète Hassan va avoir immédiatement, et que Allah va protéger et faire manifester de ses compagnons, il met cette qualité en évidence, l'intelligence. Et regardez une chose qui est importante. Dans toutes les recensions que les traditionnistes font de la vie du prophète Hassan, une des premières manifestations de l'intelligence du prophète Hassan est la manifestation d'une intelligence utile. Vous savez quelle est cette manifestation? Vous connaissez tous cette histoire. Ils reconstruisent la Mecque. Ils reconstruisent plutôt la Kaaba. Ils reconstruisent la Kaaba et toutes les tribus sont en voie de se diviser. Qui va avoir le privilège de mettre la pierre noire? Et ils se disputent. Et ils ne savent pas qui va avoir ce privilège. Et ils se disent, le premier qui arrive, c'est lui qui nous dira et qui décidera. Donc le prophète Hassan arrive et il a le pouvoir de décider. Et comme ils ont dit le premier, eux, ils s'appuient sur le hasard. Le premier qui vient, ce sera lui qui décidera. Alors le prophète Hassan aurait pu dire, sans qu'il y ait de dispute, c'est vous, tel peuple. Il n'y aurait pas eu de dispute sur le moment, il y aurait eu des rancœurs pour l'avenir. Et regardez comment il utilise le prophète Hassan son intelligence. Il prend un morceau de tissu, certains et d'autres traditionnistes disent son manteau, il met la pierre dessus, la fait lever par des membres de chacune des tribus et lui la pousse. Mais il a mis tout le monde d'accord. Et la première manifestation de l'intelligence de celui qui est avec Dieu, c'est d'utiliser l'intelligence de l'enfant. Non pas pour être meilleur que ton frère et de l'écraser, non pas pour être le premier à l'école et d'écraser, non pas pour être digne de tous les hommes, au-delà de tous les hommes, non, une intelligence au service de la réconciliation. Voilà ce qu'est le prophète Hassan. Son éducation fondamentale, c'est une intelligence qui est une intelligence au service de l'union des hommes, pas le privilège d'un homme. C'est ça qui est la première manifestation de l'intelligence du prophète Hassan. Il va unir les hommes. Son intelligence sert à cela. Et nous, trop souvent, dans notre éducation, parce que qu'est-ce que cela veut dire en fait? Ça veut dire que Allah a orienté l'intelligence du prophète Hassan vers l'union des hommes, n'est-ce pas? Tu es avec Dieu, avec le cœur, et mets ton intelligence au service de l'union des hommes. C'est ça à quoi servir. Tout notre savoir doit être utile, et une intelligence utile, c'est une intelligence qui sert le bien-être humain. Voilà celui qui porte la foi. Un cœur proche de Dieu, une intelligence pour unir les hommes. Pas une intelligence pour prendre le pouvoir, parce qu'il aurait pu. C'est moi qui vais la mettre, la pierre, tout seul. Non. Tout le monde dans l'union. Et ça, nous devons beaucoup réfléchir à cet épisode-là. Nous devons réfléchir à cet épisode-là parce que, finalement, la réalité de notre éducation doit être revue. Elle doit commencer par l'amour, se forger par la confiance dans la responsabilité, vraiment être attentif au vocabulaire, à la parole donnée, et forger une intelligence pour les hommes, au service des hommes. Réfléchis avec les hommes, réfléchis pour servir les hommes, sois proche de Dieu dans ton cœur et ton intelligence pour les hommes. Et non pas forcément comme certains d'entre nous, parce que, pourquoi est-ce que je dis ceci en particulier ici à l'île Maurice? Parce que le système scolaire, aujourd'hui, dans la façon dont il se présente, avec des examens à l'âge de 12 ans qui sont, je le sais, extrêmement difficiles, mais pas simplement à cause du système scolaire, mais de la façon dont les parents sont aussi par rapport à l'étude de leurs enfants, est en train de pervertir nos intelligences. Nous sommes en train d'avoir des intelligences pour nos enfants qui sont uniquement dans la performance, jamais dans le service. Et ça, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a combien de parents qui disent à leurs enfants, écoute, je veux que tu réussisses bien à l'école, mais je ne veux pas que tu réussisses tout seul. Regarde tes camarades, sois au service des camarades. La meilleure chose que tu puisses faire pour une classe, c'est que vous réussissiez tous ensemble. Il y en a combien qui disent ça? Mon fils, t'as intérêt à réussir. Ma fille, t'as intérêt à réussir. Le reste du monde, je m'en moque, mais toi, tu passes. C'est pas vrai? Et puis, si vous ne le dites pas de façon aussi dure, vous arrondissez les contours, mais c'est la même chose. C'est exactement ça que ça veut dire. Réussis tout seul, le monde s'écroule, mais toi, tu passes. Et on va payer, payer, payer certains pour qu'on passe. Parce que le système est comme ça, on nous vole notre intelligence. Une intelligence qui devait être pour la solidarité est devenue une intelligence pour la sélection. Une intelligence pour être avec est devenue une intelligence contre. Parce que toi, tu dois réussir contre eux, même si tu dois écraser ceux qui sont à côté de toi. Et vous savez très bien que le système est devenu comme ça. Il a perverti nos intelligences pour que tu sois le premier, que tu sois tout en haut. Et même si de notre cœur, nous n'aimons pas ce système, et nous savons que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire, ben finalement, on tombe dans le piège. D'accord. Nous ne devons pas être masochistes au point de se dire, nous devons échouer. Mais sois attentif. Réussis avec humanité. Avec générosité. Apprends à ton fils exactement cet exemple du prophète, une intelligence qui est pour la concertation et l'union, une intelligence de solidarité, une intelligence d'humanité, exactement comme le prophète Salam. Et c'est un droit que ton enfant a sur toi, que tu lui enseignes ça. Il faut que chacun dans sa famille enseigne à son enfant, à sa fille, je veux que tu réussisses avec les autres. Avec les autres. Vous devez être les uns et les autres, être solidaires dans la piété, dans la conscience intime de Dieu. Mais ensemble, c'est ça, j'ai un droit pour ça. Mais franchement, un enfant, une jeune fille, un jeune homme qui a passé toute son enfance dans une famille où on lui dit, il faut que tu passes, il faut que tu passes, il faut que tu passes. Toi, toute seule ou tout seul, quand il est plus grand, il rentre à la mosquée, sois solidaire avec tes frères, sois solidaire avec tes sœurs, ben, ça ne joue pas. Ça ne joue pas, il y a quelque chose qui ne peut pas tenir de discours. Tu éduques quelqu'un dans la compétition et puis ensuite tu aimerais qu'il vive dans la solidarité, la générosité. Tu ne peux pas avoir de discours. Ça commence très tôt, la générosité, déjà dans le regard que l'on a par rapport à ses enfants. Tout être qui porte la foi a une intelligence au service des hommes. C'est ceci que le prophète sallam nous enseigne quand il nous parle de savoir utile aussi. Un savoir qui nous permet de nous purifier, de nous rapprocher dans ce moment-là. Et j'aimerais quand même dire une chose aussi par rapport à cela. C'est que pour tous nos jeunes et tous nos adolescents, à un moment donné, il faut qu'ils entendent ceci très fort. Mettez votre intelligence au service de la concertation. Et quand je viens dans une ville ici à Maurice, et j'ai été tenu au courant, vous imaginez bien, quand il y a 2 ans je suis venu, on m'a toujours présenté l'île Maurice comme un bastion, un jardin dans lequel les communautés coexistent. Il y a quelques défaillances dans le jardin aujourd'hui. Il y a quelques ratés. Et en particulier, quand j'entends que des jeunes musulmans peuvent aujourd'hui se retrouver en conflit ouvert avec des hindous, disant maintenant ça se dispute. Alors ça ne m'intéresse même pas de savoir qui est coupable. Pour moi, les deux sont coupables. Et il y a une défaillance dans les deux communautés. Ce n'est pas vous contre nous. À partir du moment où ce qui est ton identité n'est pas une identité dans laquelle on t'éduque pour concilier, c'est qu'il y a une défaillance dans l'éducation qu'on leur donne. Alors on peut rester assis en disant, ce sont les hindous. Non, parce que même si quelqu'un t'agresse et t'agresse 4 fois dans l'injustice, eh bien, ta réponse dans la foi, c'est la conciliation. C'est ça qu'on doit dire aux jeunes. Si on t'agresse 14 fois, la 15e, tu dis encore bonjour. Tu dis encore nous vous respectons. Tu dis encore on ne veut pas la guerre. Parce que tu ne fais pas la paix avec un homme, tu fais la paix devant Dieu. Et c'est toute la différence. Et je vous rappelle ces propos qui m'accompagnent en permanence et qui devraient être entendus par tous les adolescents. Celui qui veut transformer les hommes doit méditer là-dessus également. Chers frères, chères sœurs, soyez comme l'arbre fruitier. On vous attaque avec des pierres, répondez avec des fruits. Répondez avec la meilleure des choses. C'est ça que nous devons être. Et c'est peut-être ceci que j'aimerais faire entendre à tous les adolescents qui pourraient tomber dans des conflits communalistes ou communautaires. Ça n'a rien à voir avec notre religion. Et s'il y a un adolescent ou un adulte dans cette communauté qui croit défendre l'islam en disant « nous les musulmans contre vous », il ne fait que défendre la partie la plus négative de son nafs et il trahit l'islam. Il trahit ce qu'il dit défendre. Et ça, c'est une éducation que nous devons transporter partout. Il ne s'agit pas d'accuser, il s'agit d'éduquer. Éduquer, c'est notre sujet. Rapidement, avec l'intelligence, et là jusqu'à maintenant, je vous ai mis en évidence l'excellence de l'éducation du prophète, Hassan. Il y a une autre situation. Vous voyez que je prends quelques faits qui sont des détails, mais qui sont importants. Nous avons dit tout à l'heure que le prophète Hassan a été éduqué par Allah, par Dieu, n'est-ce pas? Et qu'il était un être humain. Or, il s'est trouvé que le prophète Hassan a été, lui aussi, sujet à des attirances humaines. Jeune, comme les jeunes, comme nous, à un moment donné, le prophète Hassan apprend qu'il y a une fête. Il y a une fête. Et dans les fêtes, on ne fait pas tout ce qui doit être fait quand on est un être de... Enfin, dans les fêtes de cette époque. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des fêtes où l'on respecte les principes islamiques et il y en a d'autres. Eh bien, lui, c'était une fête qui ne respectait pas des principes minimaux d'éthique et de morale. Or, il s'est trouvé qu'il a été attiré. Il avait envie d'aller à cette fête. Il n'avait pas encore reçu la révélation. Et celui qui l'éduque, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous connaissez l'histoire, il s'apprête à y aller et il s'endort. Et il s'endort pour ne se réveiller qu'au petit matin avec la chaleur. Mais la fête était passée. Alhamdulillah. Nous, des fois, quand une fête nous passe entre... quand on la rate, ça nous gêne. Alors que normalement, on devrait dire, Alhamdulillah, je l'ai raté, c'est bien. Mais là... qu'est-ce qui se passe? Plus finement, analysons ce qui se passe. Allah a fait en sorte qu'il n'aille pas à la fête et il l'a endormi. Oui. Et là-dessus, je pense que nous devons méditer sur ce que veut dire endormir une envie. Parce que de deux choses l'une, dès que tu as ton fils, il a envie de sortir une soirée, tu ne vas pas lui donner un somnifère. Tu vas comprendre ce qu'elle veut dire endormir une envie, c'est-à-dire l'apaiser, ne pas le culpabiliser de ce qu'il ressent. Il n'a pas reçu quelque chose qui lui dit c'est mal d'avoir envie, ça l'a apaisé, c'est-à-dire quelque chose a enlevé cette envie. Et nous devons être attentifs aux envies de nos enfants, non pas pour les en accuser parce que c'est normal. Écoutez, il y a une fête quelque part, tout le monde a été parmi nous enfants, c'est normal que tu sois attiré. Maintenant, toute l'éducation est de savoir comment tu fais pour enlever l'attirance. Est-ce que tu vas regarder ton enfant, tu lui dis, t'as pas honte d'être attiré? Mais non, c'est normal. Comment veux-tu que j'aie honte de quelque chose qui est normal, sauf à te cacher mes envies? Ou alors plutôt de comprendre, je sais que c'est normal que tu aies envie, mais on va en parler. Mais je vais t'accompagner, on va en discuter. On va faire autre chose au lieu d'y aller. On va apaiser ton envie. Et la première façon d'apaiser un désir, qui est un désir naturel, c'est aussi d'en parler. De parler de ce qu'on sent. Or, nous sommes une communauté qui ressent énormément, mais qui dit plus grand-chose. Et quand on ressent sans parler, on a deux solutions. Soit on se cache, soit on met en scène. Alors certains se cachent, ils ne sont plus avec nous. Ils ne sont pas dans cette salle ce soir. Ils se cachent de la communauté, ils ne veulent plus qu'on les voie. Ils vivent loin de nous des choses qu'on n'a même pas envie de savoir. Donc ils se cachent. Et il y en a parmi nous qui sont ici et qui vivent dans la mise en scène. parce qu'il ne parle pas. La seule façon d'apaiser ce que je sens, c'est que tu me donnes la possibilité d'en parler. Vous voulez que je vous donne un exemple ? L'un des grands problèmes aux États-Unis aujourd'hui, effectivement, c'est de ressentir plein de choses, mais ne plus avoir le temps et l'amitié de trouver quelqu'un à qui on puisse parler. Parce qu'on n'a plus de personnel religieux pour pouvoir aller parler, on n'y croit plus, on n'a plus d'amitié. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez ce qu'on fait aujourd'hui ? On paye quelqu'un une heure par semaine pour dire « Assieds-toi en face de moi, j'ai des choses à dire. » C'est ça qui est en train de se passer. Et nous, notre commune... Mais attendez, vous rigolez. Mais peu à peu, ça va être nous qui allons vivre exactement la même chose, parce que si on ne peut pas se parler, on va faire comme eux. Et je vous promets qu'il y en a aujourd'hui qui commencent à se dire « Mais tu veux que j'aille chez qui ? Tu veux que j'aille chez qui ? Avec qui je vais parler dans cette communauté ? Il n'y a plus personne qui écoute. Tout le monde juge, personne n'écoute. Alors on va faire comme les autres. » Et aux États-Unis, c'est 2 personnes sur 3 qui, dans certaines villes, vont voir un psychanalyste et un psychiatre ou un psychologue. Ça veut dire qu'on manque d'oreilles. On est prêt à payer jusqu'à $50 une heure. Écoute-moi. Et nous, on va tomber dans le même piège si ça continue. La mise en scène des uns, l'éloignement des autres et le psychologue pour le reste. Il faut travailler dans cette éducation, cette écoute. Et la première écoute que l'on doit trouver, c'est l'écoute des parents. Et un enfant peut dire à son père et à sa mère, et une fille peut dire à son père et à sa mère, écoute, voilà, d'une façon ou d'une autre, ça se ressent, on n'est pas obligé de tout dire tout de suite, n'importe, mais il faut écouter, voilà ce que je ressens. Il faut qu'ensemble, on puisse apaiser ceci, exactement comme le prophète Salam a été endormi, n'a pas été accusé. Et ce moment-là, il est crucial. Endors mon désir. Endors mes envies. Mais effectivement, que si les envies, c'est cette musique et cette culture européenne, qui est une culture où il y a des choses qui peuvent être intéressantes, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut tout fermer, il faut tout interdire, je suis de ceux qui disent la sélection. Il y a des choses qui sont bien, on les prend, il y a des choses qui sont mauvaises, on les éloigne. Mais comment veux-tu apaiser un désir si dans ta maison, tu ne fais même pas de sélection pour apaiser ? Tu mets ton enfant devant la télévision, il regarde n'importe quoi, ça bouillonne en lui et tu l'accuses de ressentir ce qu'il ressent. Mais ce n'est pas ça apaiser. Le premier moment de l'apaisement, c'est de sélectionner ce qu'il va voir ton fils ou ta fille. Ce n'est pas regarder n'importe comment et on a une éducation totalement contradictoire. On le fait regarder n'importe quoi, on la fait regarder n'importe quoi, et après on l'accuse de sentir ce qu'elle ressent. C'est normal, je n'ai été tout ce qui est à la télévision en matière de culture moderne, ou de culture de masse, ou de l'industrie culturelle, en matière musicale, en matière cinématographique, c'est pour me faire monter la tension. Tu n'es pas en train de m'apaiser, tu es en train de me faire exploser. Exploser, puis après tu pousses un doigt vers moi accusateur, tu dis « mais ça va pas ou bien ?» Comment est-ce que tu peux penser une chose pareille ? T'as mis la folie dans le salon et tu me reproches d'être excité. C'est ça la réalité. Ben, apaise-moi. Apaise-moi, maîtrise la télévision, maîtrise tout ce que... Tout ça, ça ne veut pas dire tout interdire. Ça veut dire sélectionner, ça veut dire maîtriser. Ça veut dire avant de m'accuser, accompagne-moi à calmer. Calme-moi avant... Simplement de penser même m'accuser, ça c'est l'exemple du prophète Rasulallah. Et tout ceci c'est dans la vie du prophète Rasulallah. Je terminerai la conclusion en mettant en évidence combien de tout ceci. Il est apparu que le prophète Rasulallah a effectivement répondu à fa'ammal yatim fala taqhar, c'est-à-dire à puisque tu as vécu ceci, eh bien ne néglige pas. Il l'a mis en situation pour qu'il ne néglige pas ce qui allait venir. Et il ne l'a pas négligé, et en aucune circonstance. Allah SWT a mis le prophète dans une certaine situation pour qu'il en tire enseignement. Et il a mis pour nous et pour l'éternité le modèle d'un prophète, alayhi salam, qui doit servir de guide et d'orientation. Et deux choses me paraissent aussi très importante. C'est que le prophète,
fait ce que je suis en train de vous dire quand lui-même s'est trouvé en situation de père, de grand-père. Première manifestation, vous l'avez dans tous les hadiths authentiques. Le prophète Hassan était tellement proche de sa propre fille, Fatima, radiallahu anha, mais d'une qualité d'amour incroyable. Vous savez, il se levait quand elle approchait. Le prophète Hassan était capable de se lever quand sa fille approchait. J'aimerais bien que des papas entendent ça. J'aimerais bien aussi que des mamans l'entendent. Le prophète Hassan avait cette qualité, devant tous les êtres humains, de pouvoir prendre sa fille, la tirer vers lui et lui chuchoter. Il lui a annoncé sa mort, elle a pleuré. Il lui a annoncé qu'elle serait la première à le rejoindre. Elle a souri. Voilà l'exemple de ce lien du prophète Salam avec sa propre fille. Et de dire à tous les parents de la planète, dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, celui d'entre vous qui ne tue pas sa fille, parce qu'à l'époque on l'a tuée, qui ne l'insulte pas et qui ne fait pas de différence dans son éducation avec son frère, se voit promettre le paradis. Ce que vous avez entendu. Il a commencé par dire ne la tue pas, c'est-à-dire la préserve en vie, parce que l'on sait. Quand elle va demander pourquoi elle a été tuée, cette jeune fille. Et bien qu'il ne la tue pas parce que ça s'est terminé, ce temps-là est révolu. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Ne l'insulte pas. Ne l'insulte pas. Et ça jusqu'en 1999, il y en a qui n'ont pas entendu cette parole. Même avec leur fille. Il ne faisait pas, et il dit en plus, ne fais pas de discrimination. Ne fais pas de discrimination entre elle et ton fils. Parce qu'il y en a certains, mon fils, tu sors, mon fils, prends de l'argent, mon fils, tu es mon fils. On ne dit pas comme ça, mais on sent comme ça. Quant à la fille, toi tu restes là, toi tu vas faire le ménage, toi tu vas faire ceci, toi tu... Parce que nos enfants, ils ne doivent rien faire à la maison. Est-ce que quelqu'un peut me donner un hadith authentique qui dit le garçon, il ne ramène pas la vaisselle ? Est-ce que vous pouvez me donner un hadith authentique qui dit « Le garçon, tu nettoies pas la table. » T'en as un, il a une jambe sur l'autre, il regarde sa sœur. Vas-y, dépêche-toi parce que je mange quand même. Vous pouvez me donner un hadith authentique qui justifie la paresse de cette éducation discriminatoire. Moi, je n'ai appris qu'une seule chose. Dans notre famille, en l'occurrence, aussi, et dans beaucoup de familles, celle dans les années 40, quand il y avait des garçons et des filles, la même chose, tu te lèves, tu ramasses. Parce que le prophète, il faisait ça. Il aidait son épouse. La seule chose qui le faisait tout arrêter, c'est l'appel à la prière. Mais sinon, il aidait, il cousait. Et toi, tu as ton fils, il reste là. Tu regardes ta fille se lever, prendre les plats, faire tout. Et lui, il reste là comme un pacha. En plus, il regarde la télévision, il attend qu'on le resserre. J'en ai vu assis sur une table, leur sœur à côté, il ne va même pas prendre la cuillère pour se remettre. Il attend que sa sœur vienne le mettre. Attention, c'est mon fils. Ça ne va pas, ça. Il faut aussi comprendre ce que le prophète a salam, qui ne fait pas de distinction. Tu veux le paradis, écoute le hadith. Écoute le hadith. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas en train d'inventer des choses. Le prophète a salam nous a avertis, tu veux le paradis, pas de discrimination. Et ça, c'est une chose aussi sur laquelle nous devons insister. Le prophète Al-Salam était comme ça. Comme il était avec sa fille. Et l'autre chose également, vous le savez, comment il était avec ses petits-enfants. Subhanallah, il ne s'arrête à la maison qu'à l'appel de la prière. Et pourtant, quand il est en train de prier, il peut porter son petit-fils. Porter son petit-fils qui vient à lui et il le porte pour prier. Si. Ça s'appelle comment ça ? Un témoignage d'affection, n'est-ce pas ? Un témoignage d'amour.
bien c'est ceci que le prophète a manifesté. Et il y a même un compagnon qui s'était étonné en voyant le prophète embrasser les enfants. Il lui dit, nous on ne fait pas comme ça. N'ont pas compris la foi ceux qui n'embrassent pas et qui n'ont pas ce rapport avec leur enfant. Le prophète sallam avait un rapport physique avec les enfants. Il jouait avec eux, il les portait, il les embrassait, il manifestait son amour. Il courait, même avec Aïcha, il faisait la cour. Il était comme ceci, il jouait avec elle. On a plusieurs hadiths où il joue avec elle parce qu'elle était jeune. Voilà ce qu'était le prophète sallam, un témoignage d'amour par rapport à sa fille, un témoignage de profonde affection à l'endroit de ses enfants et de confiance aussi. Et regardez ce qu'il peut faire. À des moments, il fait des choses incroyables. Vous savez qu'il y a des hadiths qui vous sont revenus authentiques où le prophète sallam manifeste la confiance qu'il a à l'intelligence d'un être. Parce que si ceci est important, la confiance que tu fais à quelqu'un passe par ce que tu lui dis. Si à quelqu'un tu ne lui dis que des choses élémentaires, ça prouve que tu ne fais pas confiance à son intelligence. Mais le prophète, il parlait à Ibn Abbas, quand il était derrière sur la selle, et lui dit, si tu demandes à Dieu, demande à Dieu. Il l'enseigne, il est tout jeune, et lui dit, et ça reste. Et même Omar, plus tard, il suivra l'exemple, il prendra un tout jeune, de 16-17 ans, dans un comité de vieux. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lui, il sait des choses que vous ne savez pas. Parce que le prophète sallam lui a fait confiance. Il faisait confiance en ce qu'il disait, il parlait. Il parlait à Mu'adh qui était jeune, il parlait à Ali, qui leur parlait. Ils ont gardé plein de choses. Qu'est-ce que ça veut dire quand un être qui reçoit la révélation parle à un enfant, si ce n'est qu'il l'aime, qu'il le respecte et qu'il lui fait confiance? Voilà qui était le prophète sallam. Et vous voulez que je vous dise une des marques de grande confiance? Le prophète sallam prenant un jeune homme de 19 ans, il lui dit, tu vas être le chef de toute cette armée et vous allez monter, vous battre. À la tête de quelle armée? Pas une armée où il y avait Tariq, Mahmoud, Muhammad, non! L'armée où il y avait Abu Bakr, radiallahu anhu, où il y avait Omar, radiallahu anhu, les plus grands! Ceux qui l'ont suivi, et il met un jeune de 19 ans, et il leur apprend à tous l'humilité. Je lui fais confiance, suivez ce jeune. Et nous, quelle confiance est-ce que nous nous donnons? À partir de quel moment tu fais confiance à un jeune? Et là aussi, dans toute notre communauté musulmane, il faudra aussi que nous fassions confiance aux jeunes, et il faut que les jeunes prennent sur eux des responsabilités aussi, telles que le prophète, nous l'a mentionné. Permettez-moi donc de rappeler synthétiquement les trois articulations. La première des choses, n'oubliez jamais de méditer sur la situation personnelle du prophète sallam parce qu'il nous a été envoyé comme le dernier, le dernier des envoyés, et sa situation est également porteuse d'une dimension très très importante pour nous en ce qui lui a manqué et en ce qu'il a reçu. À chacun d'entre nous, dans l'éducation que nous devons donner aux enfants, la clé de tout est cet amour. Le consolidement ou le renforcement ou l'enracinement de cet amour, c'est la confiance. L'autre chose sur laquelle nous devons chacun d'entre nous être très très conscient dans notre vie quotidienne, tu es un peu de la façon dont tu parles. Tu es dans la façon dont tu parles. Et si tu ne fais pas attention dans ton vocabulaire, il y a fort à parier que tu es négligent sur les détails. Quelqu'un qui fait attention à ce qu'il dit doit faire attention à ce qu'il fait. Mais quelqu'un qui est négligent à sa façon de dire sera sans doute négligent à sa façon de faire. Ça, c'est une réalité aussi. La dimension de cette langue, de la parole donnée également, d'une intelligence, chers frères et chères sœurs, une intelligence au service des hommes, non pas une intelligence au service du pouvoir et de la sélection. Et ça, dans le système scolaire dans lequel vous vivez, c'est important. Dans les conflits sociaux dans lesquels vous vivez, il faut le rappeler. Et il ne faut développer dans notre communauté une conscience de nos responsabilités, non pas une conscience des conflits. Et moi, ça ne m'intéresse même pas quand on vient vers moi et on me dit « Oui, mais tu sais, c'est peut-être eux qui sont fautifs d'un conflit. » Ça ne m'intéresse même pas. aujourd'hui de savoir quel est le coupable. Je sais simplement une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, du haut de cette cieux, nous a envoyé des principes, il faut les respecter, il faut s'éduquer à les respecter. S'il y a des gens qui font 1000 erreurs, une seule ne nous est pas justifiée parce qu'ils en font 1000. Nous ne sommes pas innocentés d'une erreur parce que ceux qui sont en face de nous en ont fait 1000. Non, jamais, ça n'existe pas, c'est pas du commerce. C'est pas t'en fais 3, j'en ai fait 1, je suis innocent. Non, on est coupable d'une erreur. Et il y a des erreurs que l'on fait dans notre communauté en répondant d'une façon malveillante, en répondant parfois même à la tentation, en répondant à l'agression, en répondant à la provocation. Non, il faut t'éduquer à ne pas tomber dans ces pièges-là. C'est ça, une intelligence au service des hommes. Et de reconnaître également, au-delà de toute cette dimension-là, écoute, aujourd'hui, une des plus grandes épreuves que nous avons pour nos enfants, c'est les voies de l'apaisement. Vous savez ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Finalement, toute la clé de l'islam est dans ce verset. Le souvenir de Dieu qui apaise les cœurs. Et calmer, c'est apaiser, n'est-ce pas? Et on doit essayer, dans cette société-là, de faire en sorte que nos enfants soient avec Dieu pour se calmer et se libèrent des tentations pour s'apaiser. C'est le défi de toutes les éducations. Et j'aimerais dire aux mamans et aux pères qui sont ici, vous avez une responsabilité majeure dans vos foyers. Il faut que vos foyers deviennent des lieux d'apaisement. Il faut que vos foyers deviennent des lieux de calme. Il faut, quand il y a toutes ces turbulences dans la société mauricienne, que vous retrouviez à la maison un parfum de calme. Et ceci, c'est quand on maîtrise les éléments. Il faut dans nos demeures que cette télévision, s'il y en a une, elle soit totalement sous contrôle, c'est-à-dire maîtrisée pour ne pas, nous, être complètement désintégrés. Il faut également dans cette demeure qu'on en fasse un espace de spiritualité, un espace de foi. Des fois, on se pose la question, mais est-ce qu'on entend le Coran chez vous? Est-ce que des fois, il y a un peu de silence chez vous? Est-ce qu'on se met autour d'une table et puis on essaye un peu de discuter? Est-ce qu'on mange ensemble? Tout ça, ça fait partie de la confiance et du calme et de l'apaisement qu'on doit trouver dans sa demeure. Et souvenez-vous de l'exemple du prophète, Hassan Salam, dans cette affection qu'il avait pour tous ceux qui l'aimaient, pour sa fille et ses filles, pour sa descendance, pour ses petits-enfants. Et souvenez-vous de cela. Un jour, il a appris que son petit enfant, Ibrahim, allait mourir. Il l'avait dans ses mains et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a étonné tous ceux qui étaient présents. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas l'habitude de pleurer devant les gens. On a quelques cas comme ceci, où tout à coup, Bilal, par exemple, il le voit pleurer, il est très très étonné. Et là, on le voit avec l'enfant. Comment le prophète a senti une petite part pleurer à voir? Et vous savez quand cela était? Quand il a perdu son petit-fils. Et là, vous avez une scène très 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 émouvante avec ces propos dont il faut vous souvenir. Vous ne les connaissez pas en arabe, au moins souvenez-vous de la façon dont ils se traduisent en français. Il prend son enfant dans ses bras, il est moribond, il va quitter le monde. Et au moment où il l'a dans ses mains et qu'il meurt, il me dit, les yeux sont tristes. Les yeux sont mouillés, le cœur est triste, mais il ne faut dire que ce qui plaît à Dieu. De ta séparation, ô Ibrahim, nous sommes tristes. Voilà ce qu'était le prophète, as-salam, perdant son fils avec des larmes, manifestant tout cet amour qui était celui qui était tellement proche de Dieu qu'il savait être proche de ses enfants. Que chacun d'entre nous, Inch'Allah, se souvienne de cet enseignement. Assalamu alaikum wa rahmatullah.